Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans ce nouveau rendez-vous de notre débat hebdomadaire Patara sur Radio Ndekeluka. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la nouvelle crise institutionnelle, l'Assemblée nationale qui défraie la chronique depuis la sortie médiatique du député de Boili, Bertin Béa, pour qui la destitution du président de l'Assemblée nationale, Abdoukarim Mekassoua, s'impose. J'accuse. C'est en effet par cette célèbre formule de l'écrivain français Émile Zola dans l'affaire Dreyfus que le député de Boili, Bertin Béa, accuse l'actuel président de l'Assemblée nationale, Abdoukarim Mekassoua, de forfaiture. Entre autres faits reprochés par M. Béa au président Mekassoua, le non-respect des textes internationaux, le détournement des lignes budgétaires de l'institution, l'octroi des crédits à des députés pour des missions à l'étranger sur des bases clientélistes, la corruption, l'escroquerie, la passation des marchés publics de gré à gré et ce qu'il qualifie de fausses promesses. Le député Bertin Béa fait ici allusion à la promesse faite aux députés de les doter en BJ75 de marque Land Cruiser lorsqu'il fallait se faire élire président de l'Assemblée nationale. Par cette formule d'asticot dans les pieds d'un homme qu'il faut à tout prix enlever, le député de Boili invite les autres députés à se pencher sur la procédure de destitution du président du Parlement. Ceci pour qu'il puisse, dans un élan républicain, citoyen, faire plein usage de l'article 70 de l'Assemblée nationale qui définit, selon lui, les modalités de sa destitution. Mais du côté du groupe parlementaire Chemin de l'Espérance du président Mekassoua, on parle de gesticulation belliqueuse de la part du député Bertin Béa. Dans un communiqué publié jeudi dernier par les membres de ce groupe parlementaire, ils évoquent l'article 6-F du règlement intérieur du Parlement panafricain, lequel prévoit précisément et expressément le rappel par le Parlement national de son représentant sans autre forme de procès. Qui de Bertin Béa et Karim Mekassoua a raison? Que disent les textes en la matière? Quel pourrait être l'impact de tels agissements qui sont de nature à ternir l'image de la deuxième plus haute institution de la République? Voilà autant de préoccupations que nous allons aborder dans cette émission avec le député Jean-Pierre Marat de Mala, indépendant et non inscrit. Bonjour.
Bonjour.
Monsieur Dominique Désiré Hérénon, enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Bangui. Bonjour monsieur Hérénon.
Bonjour.
Monsieur Joseph Bindoumi, magistrat, président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme. Bonjour.
Bonjour.
Nous signalons en passant que monsieur Anselme Bindala Kundro, député de Boda, nouvellement élu au Parlement panafricain en remplacement de monsieur Bertin Béa, invité pourtant, ne s'est pas rendu disponible pour cette émission. Hermon Victorien Nambona assure la partie technique de cette émission. Sylvie Panica à l'animation.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndekeluka.
La destitution du président de l'Assemblée nationale, Abdoukarim Mekassoua, est-ce, selon vous, une demande fondée et justifiée ou une simple gesticulation? Mais avant le tour de table, nous vous invitons à suivre l'extrait du député Béa lors de sa conférence de presse.
Je considère que le président Abdoukarim Mekassoua s'est rendu responsable, sinon coupable, de certains faits délictueux. Pour ça que j'estime qu'il a commis un acte de forfaiture, une violation ou un manquement commis dans l'exercice de fonction d'une autorité. Des faits qu'on lui reproche, c'est le non-respect des textes internationaux, détournement de lignes budgétaires, octroi de missions à l'étranger, de crédit à des députés sur des bases clientélistes, de corruption, d'escroquerie. C'est aussi des fausses promesses, parce que rappelez-vous, pour se faire élire au perchoir de l'Assemblée nationale, l'honorable Abdoukarim Mekassoua a donc escroqué les honorables députés en leur promettant de les doter en BJ75 de marque Land Cruiser. Mais la réalité aujourd'hui est qu'il y a des actes clivants. J'ai demandé expressément, fermement, solennellement la destitution de l'honorable Abdoukarim Mekassoua de la présidence de l'Assemblée nationale et j'ai invité mes collègues, je les ai exhortés à se joindre à moi pour qu'ensemble, dans un élan républicain, citoyen, nous puissions faire plein usage de l'article 70 de l'Assemblée nationale qui a clairement défini les modalités de destitution du président de l'Assemblée nationale.
Voilà, vous avez suivi le député Bertin Béa. Monsieur Marat, destitution du président de l'Assemblée nationale, Abdoukarim Mekassoua, est-ce selon vous une demande fondée et justifiée ou une simple gesticulation?
Merci de commencer par moi. Je crois que dans une démocratie, il n'est pas interdit d'évoquer les possibilités de destitution de qui que ce soit le président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, peu importe. La Constitution nous donne ces possibilités. Cependant, dans le cas d'espèce qui nous réunit ici, je ne vois pas comment je peux me joindre à cette demande expresse de mon collègue Bertin Béat, d'autant plus que si l'honorable Bertin Béat ne peut pas expliquer quelle a été la procédure d'élection de ces députés au Parlement dont il est question. Je suis nouvellement élu, je ne sais pas par quelle magie ils sont procédés pour que ces collègues se retrouvent à l'institution. Donc, je refuse de me laisser instrumentaliser. Et ça a été une cuisine interne à des gens qui se connaissent auparavant. Nous, on a été mis devant les faits. Donc, des gens se sont cooptés. Donc, ils peuvent se décopter. C'est le seul mot que je suis venu ce soir porter. Et donc, j'appelle mes collègues députés à apporter la lumière sur les procédures, parce que toutes les institutions internationales auxquelles les députés centrafricains sont envoyés n'ont pas suivi la procédure d'élection pour aller dans ces institutions. La procédure normale aurait voulu que chaque groupe parlementaire ou bien la majorité et le groupe d'opposition propose des gens et qu'on les élise, soit en commission ou bien dans une procédure collective. Ici, dans le cas d'espèce, ils ont été cooptés, que ce soit au Parlement de la CEMAC, que ce soit au Parlement africain, que ce soit à l'APF. On nous a présenté des gens déjà cooptés par un groupe d'initiés, des gens qui se connaissaient avant. Donc je refuse de me joindre à l'appel de mon collègue Bertin Béat, juste pour cette raison. Cependant, s'il y a d'autres raisons valables, on peut évoquer la question des institutions. Mais bon, ici, ils ont été cooptés, donc ils se décoptent comme ils veulent. Il ne faut pas qu'ils impliquent, qu'ils instrumentalisent d'autres députés. Voilà.
Monsieur Raymond, votre avis sur cette demande ?
Merci. Moi, je dirais ceci. Je pense que nous sommes une démocratie, hein, même si c'est une démocratie chancelante, même si c'est une démocratie balbutiante, nous sommes quand même une démocratie d'un point de vue institutionnel. Nous avons toutes les institutions qui ont été mises en place avec le concours du peuple, avec la volonté du peuple centrafricain qui s'est levé pour aller à l'occasion du référendum organisé à l'époque par Madame la Présidente Catherine Samba-Panza, aller voter le 13 décembre 2015 pour mettre en place la constitution du 30 mars 2016 avec toutes les institutions qui ont suivi une fois que les élections ont été organisées. Quand je dis que nous sommes une démocratie se caractérise par une certaine vitalité. Ça ne sert à rien de mettre en place des institutions qui ne fonctionnent pas. De temps en temps, on doit pouvoir se remettre en cause. Mais si on doit se remettre en cause, il faudrait qu'on se remette en cause dans le bon sens. La sortie médiatique de l'honorable
Bertin Béat vient en quelque sorte exprimer une certaine vitalité de la démocratie centrafricaine, c'est-à-dire du débat politique dans notre pays et du fonctionnement des institutions. Maintenant, sur le fond, est-ce que les questions soulevées à l'occasion de la conférence de presse de l'honorable Bertin Béat entre dans le cadre de ce que prévoient les textes en ce qui concerne la destitution du président de l'Assemblée nationale? Je pense qu'on peut répondre à ces questions-là sous l'angle politique et sous l'angle juridique, précisément constitutionnel. Et on aura l'occasion de revenir sur chacun des points. La destitution du président de l'Assemblée nationale est prévue par l'article 70 de la Constitution du 30 mars 2016 et cette même constitution du 30 mars 2016 renvoie aux députés pour pouvoir voter une loi qui puisse organiser l'Assemblée nationale et puis déterminer également le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Donc la loi organique, c'est l'article 72 de la constitution du 30 mars 2016 qui laisse la latitude aux députés de pouvoir voter une loi organique portant règlement intérieur. Et ça a été le cas et nous avons aujourd'hui la loi organique numéro 17-011 du 14 mars 2017. C'est cette loi organique portant règlement intérieur qui détermine l'organisation de l'Assemblée nationale. Maintenant, si on va interroger cette loi organique, eh bien, il y a l'article 12 qui reprend l'article 70 de la Constitution du 30 mars 2016 qui dit que c'est possible que les députés puissent voter la destitution du président de l'Assemblée nationale pour des manquements au devoir de sa charge. Ça, c'est l'expression qui est prévue par la Constitution du 30 mars 2016 et qui a été reprise ensuite par l'article 12 de la loi organique. Alors, les manquements au devoir de sa charge, en ce qui concerne le PAN, c'est énuméré de façon précise hein, dans l'article 12. Je peux vous donner l'exemple du fait de s'opposer, n'est-ce pas, à l'application de l'article 130 de la loi organique. C'est cet article-là qui dit que les membres du bureau de l'Assemblée nationale doivent rendre collectivement compte de leur gestion. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, Si, par exemple, le président de l'Assemblée nationale fait une rétention délibérée d'un rapport d'une commission spéciale ou bien d'une commission ad hoc à l'Assemblée, eh bien, il est passible également d'une procédure de destitution. Et il y a un autre cas, le dernier cas, c'est la non-transmission par le président de l'Assemblée nationale de la résolution qui a été votée pour mettre en accusation le président de la République. Donc, voilà les trois cas qui constituent aujourd'hui ce qu'on appelle les manquements au devoir de la charge du président de l'Assemblée nationale. Alors, est-ce que les faits énumérés ou bien les faits reprochés aujourd'hui au président de l'Assemblée nationale rentrent dans cette catégorie ? D'un point de vue juridique, non. D'un point de vue constitutionnel, non. Si on interroge l'article 12, eh bien, les faits que vous avez énumérés, Sylvie, ne rentrent pas dans le cadre de l'article 12 tel que prévu par la loi organique de 2017. Maintenant, d'un point de vue politique, si vous permettez, avant que je donne la parole à...
Oui, c'est moi qui donne la parole.
Oui, avant que...
Je
voudrais quand même aborder sur un autre point. J'ai dit, la décision du président de l'Assemblée nationale, ça a quelque chose de très politique, en fait. Pourquoi très politique ? Parce que la mise en accusation, elle est politique. Elle n'émane pas d'un seul député. Elle émane d'un tiers des députés. C'est-à-dire que si on veut aujourd'hui obtenir la décision du président de l'Assemblée, il ne faut pas que ce soit un député qui en fasse la demande. Il peut prendre l'initiative. Mais donc, il y a ce qu'on appelle un formalisme juridique qui entoure cette procédure. Donc, quelqu'un peut initier cela, mais il faudrait que ce soit porté par un tiers des députés. Et les un tiers des députés signent la demande de mise en accusation et on transmet cela au niveau de la conférence des présidents de l'Assemblée nationale qui est un organe de l'Assemblée nationale. Et la conférence des présidents de l'Assemblée nationale apprécie et inscrit cela à l'ordre du jour de la séance suivante de l'Assemblée nationale. Donc, vous voyez, c'est une procédure qui est politique, et même le vote après, le vote de décision, c'est un vote politique. Il n'y a pas une juridiction qui intervient. Donc, je vous ai dit, d'un point de vue juridique, c'est inopérant, mais d'un point de vue politique, la destitution peut être obtenue.
Ok. Monsieur Joseph Bindoumi, vous avez suivi le député Bertin Beya. Sa demande est-elle fondée, justifiée, ou c'est une simple gesticulation ?
Je vous remercie, madame. J'ai été invité ici comme président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme, donc société civile, et je me retrouve sur un tableau où nous devons trancher des questions politiques. C'est mon embarras. Mais moi, je vais insister sur l'aspect juridique de la question et ma compréhension en tant que président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme. Je voudrais d'emblée vous dire que la constitution de notre pays, en son article 23, dit, je cite, « Toute personne habitant le territoire national a le devoir de respecter en toutes circonstances la Constitution, les lois et règlements de la République. » Ça veut dire que ce soit Karim Mekasoa, président de l'Assemblée nationale, que ce soit Bertin Beya, député de la Nation, les deux membres du Parlement centrafricain, doivent respecter les lois de la République, la Constitution et les lois de la République. Maintenant, comme mon frère vous a dit tout à l'heure, est-ce que la destitution d'un président de l'Assemblée nationale réside dans une conférence de presse à laquelle on appelle des gens et on impute un certain nombre de faits ou non ? En réalité, quand vous regardez les articles qui ont été arbitrairement cité, je parle beaucoup, je pense à l'article 70 de la Constitution, je parle du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. En son article 12, il n'y a pas une disposition qui dit que un seul député peut aller tenir une conférence de presse évoquant des faits dont les preuves ne résident que dans sa connaissance personnelle et qu'il appelle maintenant, à ce moment-là, à ce que les autres députés s'adjoignent à lui pour former le tiers susceptible d'entraîner la mise en accusation, un tiers de députés, et la destitution du président de l'Assemblée exige les deux tiers de l'Assemblée. Ça veut dire que vous pouvez, à un moment donné, sur 140 membres de l'Assemblée, vous pouvez, avec 41 personnes, mettre en accusation le président de l'Assemblée, mais pour que le président de l'Assemblée soit destitué, il faut environ 80 députés. Et donc, vous comprenez que sortir comme ça, une conférence de presse, pour aller dire « j'ai trouvé les fautes, je demande aux autres de me suivre pour qu'on destitue le président de l'Assemblée », ce n'est pas propre aux yeux de nous, défenseurs des droits de l'homme, ce n'est pas propre aussi aux yeux de la communauté internationale. Ça, c'est la première observation que nous pensons utile pour que désormais les députés aient une certaine hauteur. Et lorsque on sait que cette campagne trouve sa source dans une décision prise par le président de l'Assemblée nationale pour dire, comme l'autorise la charte du Parlement panafricain, que c'est le Parlement de la République centrafricaine qui désigne les représentants au Parlement panafricain et que le même Parlement centrafricain peut demander le retrait
de son représentant
sans motif. C'est-à-dire que quand vous envoyez quelqu'un là-bas, vous ne pouvez pas aller devant ce pays tiers, dire que oui, lui, il était un voleur là-bas, c'est comme ça que nous l'avons rappelé. Mais vous le rappelez sans explication et vous envoyez quelqu'un d'autre. Et si on est mécontent de ça, peut-être qu'il y a des recours à l'intérieur ici, mais aller tenir une conférence de presse pour appeler les autres députés de la nation à aller destituer le président de l'Assemblée. Surtout quand la personne concernée n'est pas en République centrafricaine, ça a été considéré comme très malsain. Maintenant, je viendrai tout à l'heure dans la profondeur du débat pour savoir est-ce qu'il y a un problème à l'Assemblée nationale et après on répondra.
D'accord, je reviens à vous, M. Marat. En quoi, selon vous, le rappel de M. Béa et de son remplacement par le député Bindala ferait polémique?
En principe, le rappel d'un député, s'il est voté, je reviens toujours sur cet aspect, le rappel d'un député qui est voté par ses pairs et envoyé pour représenter l'Assemblée nationale ou le Parlement, puisque bon, pour le moment, on n'a que l'Assemblée nationale, le Sénat n'est pas encore là, donc on ne peut pas parler du Parlement, c'est pourquoi je parle de juste l'Assemblée nationale. Le rappel ne doit pas poser un problème. Maintenant, je crois que le docteur Irinon a bien expliqué les trois points qui constituent une charge ou bien les manquements au devoir du président de l'Assemblée. La liste présentée lors de la conférence de presse ne rentre pas en ligne de compte. Donc, moi, je trouve que c'est un débat hors sujet. Maintenant, c'est l'occasion pour nous de poser la question, qu'est-ce qui ne va pas dans les institutions en République centrafricaine? Est-ce que nous, centrafricains, sommes aujourd'hui capables...
Bon, avant d'aborder ces questions-là, que prévoient les textes en la matière au niveau du Parlement africain?
Je ne connais pas la teneur de ces textes auxquels fait référence. Bon, il parle de textes internationaux. J'avoue que je ne me retrouve pas dans les expressions, mais je ne connais surtout pas les textes du Parlement, enfin, qui régissent le fonctionnement du Parlement panafricain. Mais là où je voulais insister, c'est justement notre capacité, nous, Centrafricains, à respecter les textes, comme venait de dire M. Binoumi. J'ai comme l'impression que, bon, moi, je suis nouveau à l'Assemblée nationale et j'observe avec beaucoup de tristesse certaines prises de position quand il s'agit d'un texte. Vous voyez, on a eu toute l'année 2017 des débats sur l'article 60 de la Constitution. J'ai comme l'impression que lorsque nous avons un texte, il est difficile pour nous, Centrafricains, de nous tenir au texte tel que c'est écrit. Si mon collègue Bertin Béa s'était limité au contenu de l'article 12, nous aurons matière à débattre ici. Mais il parle des promesses qu'aurait tenues. Mais quel député n'a pas tenu de promesses d'élection? Quel président de la République n'a pas tenu de promesses d'élection? Si on doit aller demander chaque député...
À commencer par vous.
À commencer, même moi qui parle ici. Donc, je pense que M. Bindoumi a vraiment raison dans ce qu'il vient d'évoquer. Il faudrait que nous commencions par respecter les textes, à nous respecter nous-mêmes. Aujourd'hui, il s'est passé un fait extrêmement grave au sein du Parlement. J'ai comme l'impression que nous ne sommes pas à la hauteur des fonctions que nous exerçons, que ce soit des députés ou des ministres. Je voudrais simplement dire que si l'honorable Bertin Béa s'est limité à l'article 12, on pouvait débattre ici jusqu'à demain soir. Mais il parle des sujets qui ne rentrent pas en ligne de compte de ce texte. Donc c'est pourquoi je disais d'emblée que je me refuse de me joindre à... De toute façon, bon, ça a été fait dans le cadre d'une conférence de presse, alors qu'il aurait fallu faire une concertation à l'Assemblée nationale en interne parmi les députés. Peut-être qu'à la sortie d'une telle concertation, tenir une conférence de presse. Mais là, se lever comme ça, aller faire une conférence de presse et demander la décision de quelqu'un. Mais on n'est pas à la première exercice. Le président de l'Assemblée nationale a fait déjà objet de plusieurs demandes de destitution. Des gens qui ne sont même pas habilités à élaborer ou bien à lancer des appels à destitution. Donc je trouve qu'on est en train d'amuser la galerie alors qu'aujourd'hui, nous avons des sujets extrêmement graves qui nous préoccupent. des tueries auxquelles on est.
Le groupe parlementaire Le Chemin de l'Espérance du président Mikasua réagit à la démarche du député Bertin Béat. Nous allons écouter son porte-parole, le député Marc Delureau.
Pourquoi falsifier le droit pour faire croire que le président de l'Assemblée nationale aurait violé les textes continentaux alors que le Parlement panafricain n'a fait que valider la demande du président de l'Assemblée nationale conformément à l'article 6-F du règlement intérieur du Parlement panafricain? Est-ce un hasard si le député Béat ne dit rien du contenu de cet article, lequel prévoit précisément et expressément le rappel par le Parlement national de son représentant sans autre forme de procès? On peut comprendre aisément qu'il n'ait pas fait mention de ces comportements peu recommandables en Afrique du Sud qui ont défrayé la chronique nationale, comportements à tout le moins déshonorants pour notre représentation nationale et pour notre pays. Une commission de contrôle et de comptabilité a été mise en place conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale présidé par l'honorable Steve Koba, président du groupe parlementaire Cœur Uni, et est à pied d'œuvre pour vérifier l'orthodoxie des dépenses au niveau de l'Assemblée nationale.
Monsieur Joseph Bindoumi, d'aucuns pensent qu'il s'agirait d'une affaire d'homme à homme. Est-ce aussi votre avis?
Bon, moi je ne rentre pas dans ces considérations. Je ne rentre pas dans les considérations d'homme à homme. Je dis quand même que lorsque on arrive à l'Assemblée nationale, donc on a un mandat du peuple, on crie partout qu'on est le représentant du peuple, on doit quand même avoir un certain niveau de retenue. Et donc je ne veux pas dire qu'il y a un problème d'homme à homme parce que ce serait justifier des comportements et serait prétendre que quand vous avez un problème avec quelqu'un dans votre environnement personnel, vous allez dans une tribune le mettre en accusation s'il est responsable d'une institution. Je ne partage pas cette position. Mais ce que je veux dire, c'est, je veux dire que le problème qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est l'un des problèmes. Ce n'est pas, peut-être qu'on reviendra en détail, mais c'est l'un des problèmes. Pourquoi est-ce que à un moment donné, on perd son sang-froid? On écrit pour dire qu'on a violé telle constitution. Moi, juriste, quand je vois ça, ça me met mal à l'aise parce que M. Béat aurait pu choisir un avocat pour que l'avocat lui dise que si vous voulez viser un texte international qui a été violé, donnez les dispositions de ce texte-là et détaillez les termes des articles de ce texte-là pour dire, voilà, en fonction des dispositions de cet article-là, le comportement de telle personne est contraire à ce que dit le texte. Et donc, cette personne peut être soupçonnée d'avoir commis des actes qui sont contraires au devoir de sa charge. Mais je pense que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Mais je voudrais insister pour dire que, est-ce qu'il y a des problèmes à notre Assemblée nationale, puisque nous sommes là pour les débats. Je pense que l'affaire Béat, c'est une affaire. Mais est-ce qu'il y a des problèmes à l'Assemblée nationale? La réponse, pour moi, c'est oui. Il y a des problèmes à l'Assemblée nationale. Et puis maintenant, je pourrais peut-être aller. Vous avez cité les députés qui sont allés en Afrique du Sud, qui s'étaient comportés de manière non conforme à la dignité.
C'est le porte-parole du chemin de l'espérance,
voilà,
qui l'a dit.
Nous avons lu dans la presse. Et nous avons entendu ces accusations au niveau de l'Assemblée. Nous avons écouté les débats à l'Assemblée où on interpelle, on a même institué l'interpellation systématique des membres du gouvernement qu'on considère, quand vous arrivez là-bas, comme de vous rien. C'est-à-dire vous les insultez à la limite dans les débats, alors qu'en réalité, il s'agit de la voix du peuple que vous prenez et donc vous devrez avoir une certaine hauteur quand il y a quelqu'un qui a aussi un mandat d'exécuter les décisions du peuple qui arrive pour se justifier, pour présenter sa politique. Vous devez avoir une certaine hauteur. Vous ne devez pas prendre un membre du gouvernement qui vient vers vous comme un manœuvre que, je ne dis pas, un manœuvre n'est pas une mauvaise chose, mais comme à l'époque de l'esclavage où vous pouvez venir donner des coups de chicotte à celui qui arrive devant vous. Donc il y a des problèmes, des accusations systématiques, des voyages. Et puis en plus, le grand scandale que mon frère Bertin Béat aurait fait une conférence de presse de ça. Parce que la communauté internationale a beaucoup critiqué qu'un groupe de députés se retrouve dans une de nos provinces pour acheter des voix, orchestrer les élections au bureau de l'Assemblée nationale. Et nous avons aujourd'hui des problèmes à cause de ça. Je crois qu'il faut que le peuple soit au courant. Nous avons des problèmes aujourd'hui parce que avant les élections du bureau de l'Assemblée nationale, un groupe de députés s'est rendu à Boali faire des élections cooptées d'avance et retourner à l'Assemblée nationale pour venir présenter. Et la communauté internationale a très, 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 très mal pris ça. Donc voilà.
Voilà, Monsieur Marin, vous êtes député, vous en savez plus que Monsieur Binoumi, j'espère.
Oui, alors je salue vraiment la clarté des explications de Monsieur Binoumi. Je crois que c'est ici le fond du problème dans le fonctionnement de cette Assemblée. Nous avons un premier problème. Le peuple peut envoyer qui il veut à l'Assemblée nationale. Donc je ne reviens pas dessus. Maintenant, dans la composition, les 140 députés, c'est de la dissymétrie, c'est-à-dire que nous n'avons pas les mêmes capacités partout et ça pose un problème, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un texte, être député, je crois qu'il faut un peu d'intellectualisme parce que vous devez analyser des textes. Comprendre le fond, mot à mot, des textes que vous avez pour pouvoir les défendre. Est-ce que nous sommes capables de cette analyse? C'est une question. La deuxième question, c'est la culture politique, la culture démocratique. Est-ce que nous sommes capables de l'exercice de la démocratie dans le sang-froid, sans s'agresser? Ce pays, j'ai tendance à toujours dire partout que c'est un pays de violence. Tout s'exerce par la violence dans les expressions. Il vient de dire, et c'est un fait qui est regrettable, lorsque les ministres arrivent à l'Assemblée nationale, il y a toujours une tension. Et parfois, on ne comprend pas, puisqu'ils ont l'impression d'être agressés. Ils sont agressés. C'est-à-dire que la façon d'exprimer des choses simples pour faire comprendre au ministre qu'il y a tel état de choses, pour que le ministre puisse l'exprimer. Mais déjà, il y a cette tension. Le ministre vient déjà avec l'expression, il va être agressé. Donc, ce n'est pas l'exercice démocratique. C'est purement l'expression de la violence. Et donc, je crois que M. Binoumi a raison. Et c'est là où on doit se poser maintenant la question. Est-ce que nous, les 140 députés, nous comprenons notre rôle de député? Mais est-ce que la population attend de nous le travail d'un député? Qui est le travail? C'est vrai, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. Mais ça ne veut pas dire des insultes. Contrôler l'action, ça veut dire, bon, vous avez dit telle chose, expliquez-nous pourquoi vous nous... Mais il y a plusieurs façons de demander à un ministre pour qu'il explique son action. Si vous commencez par insulter, ben, les deux fronts se braquent. Mais ça ne se passe pas seulement qu'avec le ministre. Entre les élus...
Entre vous ?
Il y a cette tension. Donc, ça doit être une occasion ici, peut-être, de lancer une action. Comment est-ce qu'on peut communiquer entre les Centrafricains pour qu'on puisse sereinement débattre sans avoir cet esprit de violence qui est peut-être verbal, mais qui finit toujours par... Bon, si vous ne faites pas ça, ben moi, je vais vous destituer. Et puis, il y a des mots que je refuse de reprendre ici, qui sortent souvent.
C'est toujours des menaces qui sont brandies.
C'est toujours des menaces qui sont brandies. Des deux côtés, puisque l'impression qu'on a parfois, c'est que la culture démocratique, c'est-à-dire quelqu'un est élu pour agir dans un cadre bien déterminé, et il y a un autre qui est aussi au milieu, qui a son cadre, et faire pour qu'il y ait la convergence ou bien l'interaction. Donc, entre le législatif et l'exécutif, il y a des postures à adopter. Et nous sommes très loin de ces postures qui font vivre les grandes démocraties que nous essayons de copier. Je crois que c'est ça, manifestement, le problème. Et donc, la sortie de mon collègue Bertin Béat, peut-être que sa sortie est justifiée. Il était au Parlement panafricain. Bon, on lui a demandé de partir pour le faire remplacer par quelqu'un d'autre. Ce qui nous manque, moi j'ai essayé de regarder les textes. Est-ce qu'il y a une voie de recours? Est-ce qu'on peut, avant de notifier à un député qui siège dans un Parlement étranger, avoir des étapes de rappel pour que lui il s'imprègne déjà, pour qu'il puisse prendre conscience, j'ai posé tel acte et que peut-être on va me demander de partir, on lui donne la chance peut-être de se rectifier. Est-ce que ça a été suivi ou pas suivi ça? Je ne peux pas apporter la réponse ici. Mais je confirme ce que le magistrat dit, c'est que nous avons manifestement un problème à l'Assemblée nationale qui est le problème de la culture démocratique. Est-ce que c'est dû au fait que on a élu des gens, mais qui ne comprennent pas quel est le...
Qui ne sont pas à la hauteur.
Je ne veux pas dire...
Monsieur Erreno, votre analyse à la lumière de la réaction du groupe parlementaire Le Chemin de l'Espérance du président Mekassoua, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est un problème d'homme à homme et qu'il y a un réel problème au sein de l'Assemblée nationale?
Vous savez, moi, je ne suis pas député comme l'honorable Jean-Pierre Marat ici présent pour savoir ce qui se passe.
Mais vous observez
dans les profondeurs de l'hémicycle de l'Assemblée nationale ou bien au niveau de chacun des groupes parlementaires qui composent aujourd'hui l'Assemblée nationale. Mais je voudrais simplement faire observer que l'Assemblée nationale, c'est l'institution par essence où il y a le débat politique. C'est le lieu où il doit avoir le débat.
La vitalité de la démocratie, comme je le disais dans mon propos liminaire tout à l'heure, c'est d'abord à l'Assemblée nationale. Parce qu'à l'Assemblée nationale, vous croisez tout le monde, vous croisez toutes les forces politiques. Ce n'est pas le cas à la présidence de la République où vous avez un chef de l'État qui est élu et qui compose avec les membres de son cabinet, c'est-à-dire des gens qui sont très proches de lui. Alors qu'à l'Assemblée nationale, que vous le vouliez ou non, vous êtes président de l'Assemblée nationale, eh bien, vous devez avoir en face de vous des gens de l'opposition, des députés qui ne sont pas de votre groupe parlementaire, qui sont d'autres forces politiques et qui discutent avec vous, qui débattent des problèmes du pays. Mais comme l'a dit tout à l'heure l'honorable Jean-Pierre Marat, notre pays est caractérisé par une sorte de mépris pour les textes. Vous savez, moi, j'enseigne à l'université. Je vais souvent dans des débats. Mais pour peu que vous évoquiez les textes pour essayer de rappeler les uns et les autres à la légalité, on vous prend pour un rêveur dans ce pays. Mais vous savez, la situation dans laquelle on est plongé depuis l'arrivée de la Séléka, c'est le non-respect de nos textes fondamentaux qui nous ont amenés aujourd'hui dans cette situation et on continue à vivre les conséquences. 5 coups d'État dans l'histoire de ce pays, j'ai l'impression que personne n'en a tiré les leçons. 5 coups d'État, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à chaque fois, vous avez des citoyens centrafricains qui, au lieu de respecter la constitution centrafricaine, qui interdit l'accession au pouvoir par les armes, violent la constitution, ils prennent le pouvoir par la force. C'est ce qu'a fait Séléka en 2013, par la force. Et les conséquences, tout le monde a connu les conséquences dans ce pays. Et on continue à vivre les conséquences. Aujourd'hui, sur toute l'étendue du territoire, vous avez des problèmes, ça et là, des problèmes d'ordre sécuritaire, des problèmes d'ordre économique. Vous avez les élèves qui ne peuvent pas aller normalement étudier, surtout dans l'arrière-pays. Ici, à Bangui, ça marche un peu, mais dans certaines contrées de notre pays, vous avez les futurs responsables de ces pays qui ne peuvent pas aller à l'école. Tout simplement parce que les salles de classe sont occupées par les rebelles, qui sont occupées par les groupes armés. Et ils sont là, on traite avec eux, on tend même à les institutionnaliser. C'est-à-dire, c'est comme si on voyait en eux des institutions au sens de la Constitution. Or, ce n'est pas le cas. Vous voyez, on a instauré aujourd'hui dans ce pays-là une certaine culture politique qui est nocive par rapport au bon fonctionnement de nos institutions. Mmh. Il est temps, je dis bien, il est temps que dans ce pays, que les institutions s'attellent chacune en ce qui la concerne au travail que le peuple lui a confié à travers la Constitution. L'Assemblée nationale, c'est le lieu du débat, c'est le lieu où l'on parlemente, c'est le lieu où on vote les lois pour améliorer le sort quotidien des centrafricains. Mais si pour des bisbilles entre tel député et tel député, ou bien entre tel groupe parlementaire et tel autre groupe parlementaire, on se retrouve à demander la démission, ou enfin la destitution du président de l'Assemblée nationale, eh bien, je pense qu'on risque de s'engager dans une voie sans issue. Je pense, à mon humble avis, qu'aujourd'hui, on a assez de problèmes à gérer dans ce pays. La destitution telle qu'envisagée, telle qu'appelée par l'honorable Bertin Béa, moi je crains que demain, on se retrouve avec une autre crise institutionnelle. On a suffisamment de crises déjà à gérer dans le pays. La crise sécuritaire déjà, elle nous dépasse. On a fait appel à des étrangers qui sont là. On n'arrive pas encore à la juguler. Mais si on veut ajouter à cela, à cette crise-là, sécuritaire-là, on veut encore ajouter une crise institutionnelle, je pense qu'on n'en sortira pas. L'Assemblée nationale a plutôt intérêt aujourd'hui à aller dans le sens d'une union sacrée. Toutes les institutions aujourd'hui doivent aller dans le sens d'une union sacrée pour aider le gouvernement, aider le chef de l'État, aider le Premier ministre, aider même le président de l'Assemblée nationale pour que les principales autorités de ce pays-là puissent travailler la main dans la main. Il est temps. On est dans un contexte particulier où, à mon avis, il ne devait même pas avoir, je dirais, d'opposition majeure. L'opposition majeure, au sens démocratique, c'est lorsque vous êtes dans un état normal. C'est-à-dire que les institutions fonctionnent normalement et là, on peut se lancer dans les querelles de chapelle. Mais aujourd'hui, à mon humble avis, la situation est tellement catastrophique que nous avons intérêt. Quand je dis nous, ça dit toutes nos institutions ont intérêt, plutôt que de chercher à créer une crise institutionnelle, toutes nos institutions ont intérêt plutôt à faire de telle sorte que ce pays-là aille dans le sens de la résolution du principal problème qui s'oppose aujourd'hui à nous centrafricains, qui est le problème d'ordre sécuritaire et qu'on n'arrive pas à résoudre et qui fait aujourd'hui notre honte sur le plan international parce qu'à chaque fois, on appelle les étrangers pour venir nous aider. Ils sont venus depuis 1996, ils sont venus en 2003, ils sont venus en 2008, ils continuent à venir. Et aujourd'hui, on est infantilisé. On est infantilisé. Vraiment, ça suffit. L'infantilisation de la République centrafricaine, ça suffit. On est quand même des hommes dans ce pays, on est des femmes dans ce pays. Nous avons tous étudié, nous avons tous eu des responsabilités à des degrés divers. Il est temps qu'aujourd'hui, qu'on laisse de côté nos bisbilles, qu'on laisse de côté nos mésententes, nos querelles de chapelle pour s'unir autour de nos institutions pour pouvoir travailler la main dans la main et aider les centrafricains à retrouver la paix. C'est le rôle d'une institution. L'institution travaille dans le sens du bien de la population. Alors, est-ce que la décision du président de l'Assemblée aujourd'hui, ça peut être une solution à la crise centrafricaine? Je pense que non. Ça va plutôt ajouter un problème à une série de problèmes que nous avons aujourd'hui et que nous avons du mal à résoudre.
Monsieur le député Marat, le député de Boilly, Bertin Béa, demande par ailleurs aussi à l'inspection générale d'État, la Cour des comptes, la commission de l'Assemblée nationale de diligenter une mission de contrôle pour arrêter, pendant qu'il est encore temps, ce qu'il qualifie d'hémorragie? Confirmez-vous que l'institution est minée par des actes de corruption?
Je crois que c'est un abus d'expression. Peut-être qu'on essaie par là à attiser. Les textes ne prévoient pas que l'inspection d'État aille contrôler le fonctionnement financier de l'Assemblée nationale. Il y a au sein de l'Assemblée nationale un organe où on peut mettre en place un organe lorsque il est question d'abus dans la gestion financière. Et d'ailleurs, le porte-parole du groupe parlementaire Cœur Uni l'a mentionné. Je crois que c'est l'honorable Steve Koba qui est le président de la structure qui est chargée de contrôler les comptes de l'Assemblée nationale. Si j'ai bonne mémoire, à la fin de la session parlementaire de 2017, un rapport a été produit par le bureau de l'Assemblée nationale sur la gestion financière de l'année 2017. Donc, je ne vois pas la pertinence de ce appel. Oui, oui, c'est vrai, dans le texte, chapitre 2, du contrôle de l'exécution du budget, l'Assemblée nationale élit en son sein une commission spéciale de comptabilité et de contrôle composée d'un représentant par groupe parlementaire. Ce groupe existe aujourd'hui. Elle est dirigée par le président du groupe parlementaire qui est proche du président, le groupe parlementaire Cœur Uni. Je ne peux pas dire plus.
Monsieur Joseph Bindoumi, ces institutions susmentionnées peuvent-elles effectivement s'autosaisir en cas de forfaiture financière avérée?
Moi, je pense que l'Assemblée est une institution de la République. Hein. J'ai entendu Bertin Béa dire que la Cour des comptes, l'inspection générale d'État devrait venir à l'Assemblée. La Cour des comptes a ses mécanismes de saisine. Et ce n'est pas un député qui appelle la Cour des comptes. La Cour des comptes sait à quel moment il doit aller à l'Assemblée. Je crois que la Cour des comptes a déjà été à l'Assemblée et il n'est pas impossible que d'un moment à l'autre, nous soyons au courant des travaux menés par la Cour des comptes. Mais ce que je veux dire qui intéresse le débat ce soir, à mon avis, c'est que à un moment donné, nous, société civile, on a beaucoup tiré sur le gouvernement, sur le comportement des ministres. Mais je pense que nous avons commis l'erreur de n'avoir pas beaucoup regardé vers l'Assemblée. On n'a pas beaucoup tiré sur les députés et nous allons prendre
l'engagement. C'est l'occasion jamais.
Voilà, nous allons trouver maintenant des occasions pour voir le comportement des députés. Alors, quels sont les comportements qui sont réprochables? Nous sommes restés à l'époque primitive. Les gens se battent pour des petits voyages de mission. Au 21e siècle, les députés veulent destituer, par exemple, le président de l'Assemblée parce qu'il envoie en mission des gens qu'il connaît, il n'en voit pas les autres. Il faut que tous les 140 députés soient en train d'aller en mission. Ça, c'est de la mesquinerie. La deuxième chose, c'est que on dit telle personne a gagné de l'argent, telle personne a mangé, telle personne a eu, telle personne n'a pas eu. Mais ça, c'est des débats que je considère comme des débats au-dessous de la ceinture. Même s'il y a de l'argent public, il y a des chapitres et des dépenses qui sont effectuées. Lorsque ces dépenses-là ne sont pas menées dans les règles éthiques, il y a des mécanismes qui sont mis en œuvre pour découvrir que telle personne n'a pas fait de bonnes dépenses par rapport au bien public qu'on lui a donné. Donc je pense que les choses qui constituent des faiblesses aujourd'hui au niveau de l'Assemblée, les voyages, l'argent, les gains, un autre truc que je n'ai pas beaucoup critiqué, l'histoire de l'immunité parlementaire. L'immunité parlementaire, les députés pensent qu'en République centrafricaine, il n'y a qu'eux seuls qui bénéficient de l'immunité parlementaire. Mais c'est ici l'occasion pour que je dise que les militaires bénéficient de l'immunité, les membres du gouvernement bénéficient de l'immunité, les magistrats bénéficient de l'immunité, les avocats bénéficient de l'immunité. Donc, il y a plein de personnes responsables de l'État qui, dans l'exercice de leurs fonctions, ne peuvent être poursuivis que pour des circonstances particulières. Et donc, on a tout à fait l'impression que quand on dit à un député qu'il bénéficie d'une immunité, il pense que
il n'est pas justiciable
du tout. Là, la conférence de presse du député qui s'est faite en dehors de l'hémicycle de l'Assemblée, du cadre de l'Assemblée nationale, mais qui met en cause, pouvait être considéré, si Mekassoy était là, comme un cas de flagrant délit, d'insulte à personne ou bien de dénonciation calomnieuse envers une personne. Et là, les juges, ils se seraient saisis de cette personne sans attendre la levée de son immunité parlementaire parce que c'était des actes posés en flagrance publique. Est-ce que vous comprenez? Donc, je pense qu'on va faire beaucoup de débats avec les parlementaires pour que, en corrigeant les choses qui sont pratiquement des petits comportements nuisibles à la réputation de la République centrafricaine, on puisse avoir un Parlement digne de ce nom.
Merci Joseph Bindoumi. Je crois que notre émission tire à sa fin. Quelle est la leçon, M. Erino, que nous pouvons tirer de ce début de petite crise?
La leçon à tirer, c'est qu'il faudrait qu'on fasse aujourd'hui attention. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est dans un contexte sociopolitique en République centrafricaine qui est tel que chacun devait apporter sa contribution pour la stabilité des institutions. Parce que la destitution du président de l'Assemblée nationale telle qu'envisagée aujourd'hui peut menacer la stabilité des institutions. Et la stabilité des institutions est aujourd'hui nécessaire. La stabilité des institutions, c'est le maintien du chef de l'État. Il ne faudrait pas que les groupes armés aujourd'hui demandent la démission du président de la République. Ce serait irresponsable de faire ça. Aujourd'hui, ce serait irresponsable aujourd'hui de réclamer tout ce qui peut aller dans la déstabilisation des institutions qui ont été mises en place lors des dernières élections. Ça a été dans un contexte assez fragile. Nos institutions sont certes aujourd'hui fragiles, mais chacun des citoyens centrafricains doit œuvrer pour qu'on puisse aller dans le sens de la consolidation de ces institutions, pour que les centrafricains puissent retrouver progressivement le chemin de la paix, le chemin de la sécurité.
Voilà, merci. Je crois que nous sommes à la fin de cette émission. Je rappelle le thème de cette émission, c'est la nouvelle crise institutionnelle à l'Assemblée nationale qui défraie la chronique depuis la sortie médiatique du député de Boilly, Bertin Beya, pour qui la destitution du président de l'Assemblée nationale, Abdoulkarim Mekassoua, s'impose. Et pour ce débat, nous avons reçu Monsieur Jean-Pierre Marat, qui est député de Mala, indépendant et non inscrit. Monsieur Dominique Désiré Erino, enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Bangui. Et Joseph Bindoumi, magistrat, président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme. Je rappelle la technique Herman Victorien Nambona et Sylvie Panika à l'animation. Merci, au revoir.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndekeluka.